Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Histoire des colonisations. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur l'histoire de l'Irlande, qui va nous permettre en fait de nous interroger et d'interroger notre regard sur les histoires de colonisation des autres pays, des autres continents, voir est-ce qu'on a des biais, et surtout, voir où est-ce que ces histoires ont souvent commencé. Notre podcast même a commencé en 1415. À ce moment-là, l'Irlande était déjà une colonie depuis environ 250 ans. C'est donc l'Irlande qui, en grande partie, va nous montrer un modèle qui sera potentiellement répliqué plus tard. Voici la démarche, et maintenant, place à l'épisode. L'Irlande de 1065 est un pays complexe. Alors, est-ce même un pays ou un ensemble de royaumes disparates habitant sur la même île? Déjà, c'est un pays d'Europe de l'Ouest. Ça va, c'est connu. Un peu d'agriculture, des guerriers, de la pluie, des chrétiens, ça aussi c'est connu. Parlons donc des différences avec les autres pays d'Europe. L'Irlande est certes un pays profondément chrétien, oui, mais de façon assez différente de nos contrées, surtout à cette époque en 1065. L'Irlande de l'époque, plus qu'une tradition d'église, c'est une tradition de monastère. Depuis les premiers missionnaires, Patrick, qu'on connaît, à Columbkille, Colombin autour du 5e ou du 6e siècle. Les monastères vont structurer la vie religieuse et économique du pays, se rattachant aux classes supérieures, par des réseaux de familles, de territoires, ils vont faire partie du patrimoine des nobles, et donc du patrimoine noble. On peut aller plus loin. En fait, les monastères vont structurer le pays dans son ensemble, car c'est autour d'eux que sont construites les villes. Un peu à l'inverse de... par exemple la Gaule, où les évêchés ont pu se bâtir sur des villes existantes. Si l'Irlande est plutôt peuplée, elle n'est pas vraiment dense avant l'arrivée des monastères au 6e siècle. Elle n'a pas cette histoire que je viens d'évoquer, celle des oppidums ou des villes romaines. Ce sont des ensembles de fermes plus ou moins isolées, dominées par le fort du chef local, le chef qu'on appelle le ri. Le ri, il y en a des douzaines et des douzaines en Irlande, sont dominés ou reconnaissent parfois la dominance d'un roi des rois. Mais ce roi des rois, il n'a pas vraiment un pouvoir contraignant au-delà de ses forces propres. Si vous pensez empereur romain, pensez clairement Habsbourg plutôt que Justinien. Il n'y a pas un appareil d'État à utiliser, il n'y a pas des polices secrètes, il n'y a pas vraiment des structures économiques transverses qui viendrait de l'empereur ou du roi. C'est un genre de féodalité. Alors, sans appareil d'État, on peut se poser une question relativement intéressante. L'Irlande de l'époque, en 1065, au milieu du Moyen-Âge, est-elle un pays? Est-ce qu'il y a un État irlandais avant la conquête normande? Alors, un pays, oui. Un État... non, pas vraiment. Laissez-moi vous expliquer. On a très rarement une Irlande qui va reconnaître un seul chef. Et j'irais jusqu'à dire que, en fait, dans mes recherches, je ne l'ai jamais vu avant le XVIIIe siècle. Et encore. On a, comme je l'ai dit, une mosaïque de roitelets qui contrôlent des territoires allant de quelques hectares à la moitié de l'île, le tout changeant constamment au gré des raids, des attaques, des rapports de pouvoir, des héritages, des mariages, toutes ces joyeusetés. Alors, on pourrait se dire que, au-delà d'une langue commune, le gaélique, qu'ils parlent encore aujourd'hui, ces gens-là n'ont pas de destinée commune. On va faire un peu de culture G. Rappelons-nous ce que dit Ernest Renan quand il se demande, au XIXe siècle, qu'est-ce qu'une nation ? Une nation, c'est pour nous une âme, un esprit, une famille spirituelle, résultant dans le passé de souvenirs, de sacrifices, de gloire, souvent de deuil et de regrets communs, dans le présent, du désir de continuer à vivre ensemble. Alors, Quel vivre ensemble? Quel deuil commun ont-ils pu avoir, ces roitelets qui passent leur temps à s'entretuer? Comment cette succession de vendettas, de sang versé, de rivalités peut-elle bâtir un tout cohérent? Braudel même nous dit que la France, par exemple, ne se construit en nation qu'assez tard, juste avant la Révolution, quand suffisamment de routes et de rails relient les régions. Alors, certes, l'Irlande est beaucoup plus petite que la France, environ un quart de la France, mais comment peut-on imaginer un nationalisme irlandais aussitôt? Rome l'avait fait, mais Rome était un état centralisé qui pouvait imposer son idéologie et inclure les peuples à travers les légions. La réponse existe, et elle répond aussi à une autre question. On en a parlé précédemment, une des grandes spécificités de l'Irlande, encore aujourd'hui d'ailleurs, est cette mémoire pré-chrétienne. En Irlande, on apprend encore les histoires de Finn MacCool, de Cuchulainn, des Sive. L'Europe, par contraste, et la France en particulier, a connu le rouleau compresseur romain et son génocide des druides, puis le second rouleau compresseur chrétien, qui, greffé à l'appareil déliquescent de l'État romain d'Occident, le remplaça et garda une certaine idée de civilisation. Mais ce fut une religion qui vient globalement d'en haut, et qui s'implante dans les temps de chaos pour préserver l'ordre. Mais l'Irlande est différente. Et pourquoi donc? Bah, je vous ai déjà donné un indice. Si le pouvoir politique et exécutif est extrêmement fragmenté, l'Irlande, par contre, est unifiée par une classe de lettrés, les druides et les poètes. Les druides ont la loi, ce sont des conseillers politiques, ils suivent les rites, on connaît globalement tout ça. Ce qui est intéressant et moins connu chez nous, c'est par contre le rôle des poètes, les fili. Ils passent les mythes, mais ce sont aussi des personnes sacralisées. En effet, ils chantent les louanges des rois, des nobles, et font des satiriques, des chants d'insultes, qui peuvent détruire l'honneur d'un noble, le maudire même. Or, ces druides et ces poètes voyagent, ils vont de cour en cour. Ce sont eux qui vont unifier l'Irlande, qui unifient l'Irlande en faisant circuler la langue, l'information, les histoires, les chants et les mythes. Ce sont eux qui transforment un maelstrom en un tout unifié, malgré les frontières changeantes entre roitelets. Quand les missionnaires chrétiens arrivent, ils ne peuvent pas être coercitifs. Ils ne bénéficient pas d'un appareil d'État comme en Gaule avec Constantin, non. Ils doivent convaincre, ils sont en concurrence avec une classe d'intellectuels païens. Ils vont faire des débats, aller parler aux gens, intégrer leurs croyances avec les mythes locaux. Il en résulte, avec leur succès, une classe d'intellectuels chrétiens qui vont perpétuer les mythes, les légendes, mais aussi les lois locales. Ne pas les effacer, car ça entrerait en conflit avec les souhaits des locaux. C'est un peu une logique de marché des idées plutôt que de domination. Il en résulte une chrétienté vibrante, vivante, en contact avec Rome au 5e, 6e, 7e siècle, qui va recopier les textes, les améliorer, les commenter et les renvoyer sur le continent pour participer à l'évangélisation ou à la réévangélisation et la restructuration de l'Europe avant et avec Charlemagne. Du coup, ça nous donne une Irlande qui est unifiée culturellement avec ses chants, ses sagas qui perdurent jusqu'à nos jours. Juste une aparté parce que c'est marrant. Aujourd'hui, le sport le plus populaire en Irlande, c'est pas le foot, c'est pas le rugby comme on pourrait croire, mais c'est le hurling, un genre de hockey sur gazon. Deux équipes, une balle en cuir, des crosses en bois. Mais ce qui est passionnant, c'est que le hurling est particulièrement représenté dans les sagas irlandaises, comme sport pour les jeunes, particulièrement en tant qu'entraînement au combat. Mais il est aussi représenté comme un sport pour le sport, avec des équipes qui s'affrontent entre royaumes lors d'événements importants. Avec des notions d'honneur pour le vainqueur, franchement, exactement comme un match de foot moderne. Ce hurling qui avait été opprimé sous la colonisation britannique et sa résurgence avait été instrumentalisé par les mouvements d'indépendance moderne comme un facteur identitaire. On notera qu'il y a un club à Paris et qu'il y a d'ailleurs une scène de hurling dans le film récent Northman que je vous recommande par ailleurs.
save your mother. I won't kill you if you live.
Mais rappelons-nous, le monde irlandais n'est pas un monde figé dans ses lignes mouvantes, dans ses raids inconséquents sur le bétail des roitelets en quête de vengeance préemptive. Ce n'est pas un monde sauvage, éternel, primitif, qui ne serait peut-être pas encore rentré dans l'histoire à l'aube de l'invasion normande. C'est un monde, en 1165, qui a connu deux grandes évolutions récentes. Un changement dans les modes monastiques et, plus ancien mais plus impactant, les invasions vikings qui ont bouleversé l'Europe et le monde entre le 8e et le 10e siècle, et dont les Normands sont d'ailleurs la continuité. Fin du 8e siècle, les Vikings attaquent l'Irlande, font des raids et fondent des villes comme Dublin. Ils s'installent au bord des fleuves et s'intègrent doucement dans les réseaux commerciaux. Rappelons-nous que, fondamentalement, dans ces siècles, un marchand est un pillard qui rencontre trop de résistance pour se battre, et un pillard est un marchand qui voit une proie facile. Typiquement, les Vikings ont des colonies commerciales, qui servent aussi de base avancée pour conduire des raids, notamment pour capturer des esclaves, mais aussi pour le cuir des troupeaux irlandais. Les fameuses sagas islandaises, par exemple, auraient été largement influencées dans leur format par l'afflux d'esclaves irlandais en Islande. On notera que si l'univers commercial irlandais est étendu par les Scandinaves, qui vont après tout de Constantinople au Canada, en passant par Kiev et le Groenland, ils ne le créent pas. L'Irlande est déjà de longue date insérée dans des réseaux proches, notamment avec la Grande-Bretagne, que les Irlandais envahissent plusieurs fois. Les Pictes, peuplade d'Écosse qu'on rencontre dans les récits romains, seraient effectivement des Irlandais envahisseurs, chose qu'on voit bien d'ailleurs dans les récits comme l'histoire de Cuchulainn par exemple. On va finir par voir apparaître un royaume hiberno-scandinave sur la côte est de l'Irlande, autour de Dublin. En gardant une identité séparée, il finit par s'inscrire dans un jeu d'alliance locale, un peu d'ailleurs comme les Portugais en Inde au XVIe siècle. Par contre, est-ce qui va sauver les Irlandais? C'est qu'il n'y a pas d'État à conquérir. En quoi ça aide? Ça paraît peu contre-intuitif. Eh ben, s'il y a un État, faut taper fort, droit au but et prendre la place du roi. On bénéficie d'un coup de l'appareil d'État qu'on peut utiliser à son propre profit. Par contraste, en Irlande, vous battez un petit roi local, alors ça va, c'est simple, c'est bien. Il en reste 134, 136, 137, 138, 132, il y en a 5 qui sont morts en se battant entre eux. Bon bah, faut retourner au charbon les gars. Hein. Alors, c'est très intéressant, et pourquoi est-ce si efficace? Après tout, l'Angleterre, à la même époque, est aussi divisée, mais va se faire rouler dessus par les Vikings. Mais justement, les royaumes anglais étaient plus divisés, plus qu'une Irlande qui, au moins, avait une culture commune, forte, selon une théorie que j'ai pu trouver. Ce royaume hiberno-scandinave, ne pouvant donc pas supplanter une autorité existante, il va, par exemple, s'allier avec le roi de Leinster, le quart est de l'île, pour combattre l'ascendance de Brian Boru, le roi de Munster, le sud. Ça culminera à la bataille légendaire de Clontarf en 1014, où Brian Boru vaincra les armées de Leinster, permettant à sa famille de devenir au roi d'Irlande, même si encore contesté pendant environ un siècle. Alors, la fin de la domination des O'Brien, donc les fils de Brian, et de la domination de Munster va créer un certain chaos. Alors que Leinster, Mead, Ulster, Connacht se battent tous pour obtenir leur propre domination sur les autres. On notera notamment les O'Neill qui dominent Connacht et Ulster pendant ce siècle. Et oui, bah, les familles, les royaumes, tous se connaissent bien, hein. La plupart ne peuvent pas se piffer. Il y a un autre problème. L'arrivée des ordres monastiques venus du continent, comme les cisterciens. Pourquoi c'est un problème? L'église irlandaise, comme l'église anglo-saxonne avant l'invasion de 1066 d'ailleurs, était peu orthodoxe, pas complètement orthodoxe. On l'a dit plus haut, les monastères faisaient en gros partie des fiefs familiaux. Le rôle de l'abbé restait dans une même famille et les revenus contribuaient au royaume. On avait une collusion économique, de la simonie, des comportements moraux déplacés. L'arrivée de ces ordres, comme les cisterciens, beaucoup plus détachés des structures de pouvoir existantes, vont provoquer des lignes de fracture dans la société irlandaise. Et la publicisation des écarts irlandais, le fait qu'ils deviennent très connus, va provoquer la colère des papes. On y reviendra. Ce qui est intéressant, c'est qu'encore, on voyait exactement la même chose avant 1066. Guillaume le bâtard ou le conquérant, selon à qui on parle, ayant même eu droit à la bannière papale pour aider à mener à bien un effort de, ouvrez les guillemets, réforme. Voici pour l'Irlande. Mais que se passe-t-il de l'autre côté ? Des futurs envahisseurs ? Quid de l'Angleterre ? Nous sommes en 1166, la veille des premières invasions normandes en Irlande. À quoi ressemblent les envahisseurs ? Cela fait alors un siècle, exactement, que l'Angleterre et le Pays de Galles ont connu leur propre colonisation, comme on avait pu le voir ensemble. Les aventuriers sont venus, les bonnes terres ont été prises. Nous sommes un siècle plus tard. Les seconds fils peinent à trouver leur place. Les intrigues politiques déchirent le pays, maintenant que l'élan tente de faire place à la stabilité. Une guerre civile, l'anarchie, a fait rage pendant 15 ans, de 1138 à 1153. La population, elle, augmente avec le bénéfice de l'optimum climatique médiéval, une période chaude et sèche et stable qui permet de mieux cultiver les céréales. Il y a donc une certaine pression à aller voir ce qui se passe ailleurs, à chercher la gloire et la richesse. Nobles, tombés hors des faveurs de la cour après la conclusion de l'anarchie anglo-normande, un besoin de terre, et de l'autre côté, une Irlande qui tente de se restructurer depuis la chute des O'Brien et l'essor des O'Neill. Voici le contexte. À l'aube d'incursions normandes en Irlande. Ne nous manque qu'un roi déchu et revanchard pour mettre la catastrophe en mouvement. Mais cela, nous le verrons au prochain épisode. Merci d'avoir écouté. Et à bientôt.